Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Merci à vous tous qui nous suivez sur la 93.5. Bonjour et merci d'être là, puisque vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir dans cette émission. Une enquête nationale sur la qualité de l'éducation dans les écoles primaires s'ouvre le 13 octobre prochain. L'initiative portée par le Centre National d'Évaluation des Apprentissages vise à recueillir des données fiables pour mesurer les acquis scolaires des élèves et évaluer le fonctionnement global du système éducatif primaire. La collecte alors des informations se déroulera en deux vagues, du 13 au 24 octobre 2025 et du 3 au 7 novembre 2025. Elle couvrira l'ensemble des établissements primaires du pays afin de garantir une représentation complète et fidèle du fonctionnement du système éducatif national. Notons qu'une formation en cours vise à outiller des agents d'enquête ou enquêteurs sur les techniques de collecte des données et à garantir la fiabilité ainsi que la précision des informations qui seront recueillies lors de justement cette enquête. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons en parler bien sûr et nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 3 octobre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takwami, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, aussi des invités, bien sûr. Alors, confrères journalistes en studio avec moi, Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Grâce à Dieu, ça va. On remercie toujours le ciel alors pour ce souffle de vie que nous avons. Et là, je pense que nous devons toujours être témoigner notre gratitude pour ça.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est la plus grande richesse que Dieu nous donne. La vie d'abord, un peu de santé, parce qu'on est presque tous malades, mais ça va. Et le reste, ce n'est que des bonus, je pense. Donc, on remercie Dieu tant qu'on est vivant. Comme on dit, quand on vit, il y a espoir. Donc, la vie peut toujours aller dans tous les sens. Mais tant que Dieu nous donne le souffle, il nous donne la santé en plus. Je crois qu'on devrait chaque jour dire merci parce que chaque jour, nos voisins partent, des gens que nous connaissons partent. Et nous sommes là, notre tour c'est peut-être pour bientôt, c'est peut-être pour bien plus tard, on ne sait rien. Donc quand on se réveille, il faut dire merci.
Il faut dire merci. Firmé Tekwagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation.
C'est tout un plaisir.
Voilà, pour le souffle de vie, il faut toujours dire merci.
Oui, bien évidemment, qu'avons-nous qui ne viennent de Dieu. Donc tout ce que nous avons, même le portable que j'ai dans ma main, ça vient de Dieu. Qu'avons-nous qui ne vient de Dieu? C'est fort. Le souffle de vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous possédons comme matériel, l'immatériel, ça vient de lui. Donc nous-mêmes n'avons rien créé et nous ne pourrons rien créer sans lui. Donc nous ne pourrons que lui dire merci. Je pense que la plus belle chose qu'on puisse donner à Dieu, c'est la reconnaissance. Autant on est reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il nous fait, autant il sera content et il sera toujours déterminé à nous bénir. Alors merci à lui, merci aussi à vous qui nous avez invités.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Germain Pouli, il est journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Fermete Kouagbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'homme d'Améda, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pascal, bonjour à tout le monde ici et à vos auditeurs, sans oublier les sympathisants de la Voix des Sans-Voix que je représente au niveau du conseil régional. Et merci.
J'aime bien votre provisoire, oui. Et c'est intéressant quand même de vous voir et dans cet habit.
Le Togo va bien.
Quelqu'un le dit, comme lui le dit, peut-être que le Togo va bien.
Oui, nous avons le rêve que le Togo puisse remplir sa mission, qui est d'être l'ordre de l'humanité, comme l'a dit, je ne sais pas si ce n'est Sylvanus Olympio, ou bien comme l'a dit, comme tous nous l'espérons, pas forcément Sylvanus Olympio. Donc voilà, je vais bien. Et merci à tous ceux qui
ont entendu. Mais quand vous dites que le Togo doit remplir sa mission, je pense que c'est les Togolais que nous sommes, puisque le Togo, justement, c'est une entité, mais après tout, c'est nous, les Togolais, qui constituons le Togo.
Oui, chacun fait sa part. Chacun doit faire sa petite part, sa petite contribution pour qu'au final, nous vivions bien ensemble en tant que des frères qui ont eu la mission de faire du Togo un grand pays respecté. Il y a des petits pays, des pays plus petits que le Togo qui font de merveilleuses choses et j'espère que le Togo fera de même. On connaît la Croatie qui est allée en demi-finale de la Coupe du Monde. J'en parle parce que je suis footballeur. Je suis footballeur, j'ai essayé de devenir footballeur. Et bien, il y a aussi d'autres nations.
Qui sont footballeur des petits... professionnel, c'est ça?
Oui, il y a aussi d'autres nations qui sont plus petites que le Togo, mais qui concitent régulièrement Monaco, la Suisse, des petites nations, mais qui font des merveilles. Donc, c'est notre souhait pour le Togo.
Et justement, c'est notre souhait pour le Togo. Samir Orosama, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin à Lomé et un peu partout dans les localités environnantes. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Et l'homme d'Almeda, je rappelle que vous êtes conseiller régional et aussi vous êtes analyste et vous intervenez justement dans cette émission avec nous et vous apportez justement votre analyse sur des sujets de l'actualité. Sami Orosama, analyste aussi et défenseur des droits humains, bien sûr.
Absolument. Vous savez que dans une société où les pouvoirs sont organisés de telle sorte qu'il y ait un équilibre, il arrive qu'il y ait des dérives. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes de contre-pouvoir pour essayer de dénoncer un certain nombre de choses, pour attirer l'attention de ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, afin de corriger certaines irrégularités, afin de faire mieux certaines choses. Comme on le dit, dans la plus grande démocratie au monde, il y a toujours des dérives. Dans les nations les plus merveilleuses, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc, le Togo, c'est le patrimoine commun que nous avons. C'est ce bien que Dieu a voulu nous donner à tous. Dieu a voulu que nous naissions au Togo. Dieu a voulu que nous œuvrons au Togo à travers nos petites actions et tout. Donc, nous devons être fiers de ce que nous avons comme Togo. Je pense que moi, je suis croyant musulman. Et dans l'islam, on nous dit... il faut toujours parler en bien de votre pays.
Mais dans la Bible aussi, c'est dit.
Voilà, il faut toujours parler en bien. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez seul, vous pouvez vous critiquer, vous pouvez vous dire les vérités entre vous. Mais lorsque vous alliez ailleurs, lorsque vous êtes hors de vos frontières, il faut toujours parler du bien. Et donc moi, je suis triste aujourd'hui de voir que certains de nos concitoyens, quel que soit ce qu'on peut dire du Togo, je ne suis pas sûr que nous sommes les derniers sur les 180 pays. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des choses que les gens envient chez nous. Donc, il faut avoir cet amour pour la patrie. Toujours parler bien du pays, vendre le pays. Et quand nous nous retrouvons seuls, nous pouvons être Togolais, parler de nos problèmes et avancer.
Mais ça ne veut pas dire que quand ça ne va pas aussi, il ne faut pas le dire. Il faudrait quand même qu'on soit aussi objectif et qu'on dise exactement ce qui ne va pas. Justement, ça aide les responsables ou du moins les autorités à corriger aussi ce qui ne va pas. Parce que nous constituons également les yeux alors de ces autorités. N'est-ce pas, Samir?
Absolument, vous avez parfaitement raison. Au même moment qu'on a cette volonté de pouvoir dénoncer, de pouvoir dire que à telle chose il faut améliorer, ben, l'engagement patriotique nous enseigne qu'on doit être aussi en mesure de dire ben, les autorités, puisque c'est vous qui avez le pouvoir en main, voici ce que nous proposons qu'on peut faire pour améliorer. Il ne suffit pas de dénoncer, et il suffit aussi d'apporter des contributions qui permettent de construire ensemble.
C'est ensemble qu'on
co-construit. C'est-à-dire que c'est pas parce que le pouvoir entre les mains d'une équipe que nous attendons forcément que tout soit fait par eux. Mais nous devons être cette couche-là qui incite ceux qui ont donc les manettes en main de pouvoir faire mieux. Donc je l'ai toujours dit et je le pense toujours, le pays que nous avons en commun, qui est le Togo, ne se construira que lorsque nous déciderons de nous mettre ensemble et que nous déciderons de contribuer ensemble pour faire avancer les choses.
Merci beaucoup Samir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite qu'on parle de l'environnement déjà en début alors de cette émission. C'est pour cela que j'ai invité un spécialiste de l'environnement, docteur Saliou Gaye Ndoye. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Je ne sais pas si j'ai écorché le nom ou bien c'est bien, non, c'est bien cela.
Vous l'avez parfaitement.
D'accord, ok. Docteur, vous êtes spécialiste en gouvernance internationale de l'environnement. Et là, et effectivement, hors micro, on discutait maintenant de ce changement climatique que nous observons ces derniers temps. Normalement, c'est vrai, il y a la météo qui nous a renseigné qu'il y aura assez de pluie dans ce mois d'octobre. Et là, ça veut dire que le changement climatique est devenu aussi visible aujourd'hui sur notre continent.
Oui, tout à fait. Bonjour encore, bonjour à nos auditeurs et merci pour l'honneur déjà pour les Togolais de m'accueillir au Togo ici. C'est un grand plaisir et je suis ravi de toujours parler de ce sujet qui me passionne énormément, l'environnement. Effectivement, les changements climatiques sont là et c'est, disons, une partie, disons la partie visible de l'iceberg de tous les problèmes environnementaux qui existent actuellement. Et là, effectivement, dans les changements climatiques qui combinent aussi bien les processus plus insidieux que les processus plus violents qu'on désigne dans notre jargon comme étant la variabilité climatique avec les événements extrêmes, mais il est extrêmement clair et ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le climat est en train de changer et qu'il va falloir faire quelque chose pour déjà travailler sur les causes profondes de ce changement, mais également voir, par rapport à ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter, comment s'adapter, avec quels moyens. Et donc, c'est vraiment un très grand chantier. Et l'enjeu, la question fondamentale maintenant, c'est comment l'Afrique perçoit cette question et quelle va être réellement sa réponse. Et donc, c'est tout l'enjeu de discuter et de voir quels devraient être les mécanismes à développer pour travailler sur ce que j'appelle un repositionnement de l'Afrique dans le système de gouvernance internationale, parce que c'est de là que va partir les esquisses, la normalisation des solutions à adopter.
Docteur, c'est vrai, vous avez dit, vous avez parlé alors de l'enjeu, et l'enjeu justement est de taille, mais aujourd'hui, quand on prend les défis, puisque je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur les défis alors de l'environnement sur le continent et aussi comment relever ces défis avec les ressources dont nous disposons. Et aujourd'hui, quels sont les grands défis de l'environnement sur notre continent, docteur?
Oui, les grands défis, disons, si on doit les catégoriser, on va avoir trois grands défis. Et le premier grand défi, pour moi, qui est le plus important, c'est le défi de la gouvernance. C'est la perception. Comment les Africains, les pays africains perçoivent l'environnement et à partir de cette perception, quelle devrait être leur position dans le système de gouvernance? Parce que c'est le plus grand problème qu'il y a, la perception de l'environnement. comment l'Afrique considère l'environnement par rapport à son développement économique et social. Il est absolument clair que notre perception ne devrait pas être la même que les autres. Et le grand problème, à l'image de la gouvernance économique qui classe les pays par ordre de richesse et qui a son classement et met les pays africains en dernière position, et c'est même contestable les critères, parce que dans ces critères, un critère important, c'est-à-dire la valeur économique des ressources naturelles, n'y figure pas, ce qui fait qu'on peut déjà contester ça. Mais déjà, les choses étant telles qu'elles sont, si on considère ce classement-là, ils ont reproduit le même schéma sur la gouvernance de l'environnement. Alors que la donne est complètement contraire. Parce que, autant on peut dire que les pays africains sont pauvres, mais autant on peut dire, sans risque de se tromper, en termes de ressources naturelles, en termes de potentiel de séquestration de carbone et autres, l'Afrique est extrêmement riche. Et donc, un tel classement ne peut pas être appliqué à la gouvernance de l'environnement. Et c'est cette perception qu'il faut corriger d'abord. Et pour corriger cette perception-là, dans les systèmes, dans les organisations où on définit les programmes, les priorités de financement, il faut d'abord poser les problèmes tels qu'on doit les poser et se repositionner. Et à ce niveau-là, dans le système de gouvernance, un point extrêmement important, c'est la contribution des scientifiques. Et je suis étonné de ne voir aucune de nos universités, par exemple africaines, être accréditée dans ces conventions-là. Parce que toutes les décisions qui sont prises au niveau de cette convention, on les prend sous le sceau de la science. Mais la science de qui? La science par qui? Qui donne ces données-là? Toutes les données dont on parle ne viennent pas de nos universités. Je donne juste un exemple. On va vers la COP 30 avec Belém, où on parle des forêts tropicales. Mais si on devait parler des forêts tropicales, la première forêt tropicale, ce n'est pas la forêt amazonienne. C'est la forêt du bassin du Congo, qui est le premier poumon, pas le deuxième. Et pour preuve, toute la discussion qu'il y a autour de la projection de la carte de Mercator qui réduit l'Afrique, mais a une incidence sur ces choses-là. Et qui fait que financièrement, quand les gens distribuent les ressources, ils donnent énormément de ressources à la forêt amazonienne et laissent la forêt du bassin du Congo, qui est le premier encore bassin, et qui ne reçoit qu'environ 11% des financements.
Mais docteur, est-ce que ça n'a pas été fait sciemment, cette carte dont vous parlez, et qui fait même d'ailleurs que finalement on classe peut-être alors cette forêt qui est peut-être déjà dans une puissance, donc on le classe, est-ce que ça n'a pas été fait sciemment?
Ça a été fait sciemment, et à l'époque où ça a été fait, et maintenant les choses ont complètement changé. Les compétences, les connaissances en Afrique nous permettent non seulement de contester, mais de remettre les choses en l'ordre. Et c'est ça le rôle essentiel de la communauté scientifique pour donner les arguments scientifiques et autres pour repositionner l'Afrique. Ça se fera sur une base scientifique. Ça a été fait sciemment et c'est notre responsabilité de corriger cela. Et c'est là la perspective dans le repositionnement de l'Afrique. Il faut corriger ça et la base elle est scientifique. Et il faut intégrer l'interface science-policy, comme ils disent. Et ça, c'est le grand enjeu actuellement.
Mais c'est concrètement qui doit être à mesure alors de changer la donne? Parce que, oui, aujourd'hui, c'est tout comme quand on prend ces puissances, ce sont telles qui dirigent, même sur le plan scientifique, et finalement, l'Afrique demeure en quelque sorte un spectateur.
Et c'est là où les États ont une responsabilité. On entend toujours les gens aller à la COP, les points focaux et autres, des trucs comme ça. Mais pour beaucoup, on y va pour faire de la figuration. Les gens n'y vont pas avec un objectif bien défini. On a toujours tendance à accuser les autres et autres. Ce ne sont pas les autres, c'est nous. C'est nous. Nous avons suffisamment de docteurs, de scientifiques pour revenir encore à la COP. On a ici, par exemple, pour les forêts sacrées, qui ont prouvé une efficacité extraordinaire de conservation de ces écosystèmes-là. Mais il n'y a aucune ligne budgétaire, il n'y a même pas de reconnaissance juridique de ce type de forêt.
Alors qu'il y a ici, je le sais, à l'université de Lomé, beaucoup d'études qui ont été faites. Il s'agit maintenant de prendre ces études-là, de les mettre dans les interfaces sciences-policy et de les transformer en politique dans ces organisations et avec leurs corollaires, les financements qui vont avec. C'est notre responsabilité. Ça veut dire que quand on envoie une délégation à la COP, comme à la COP de Belém qui va venir, on parle des forêts tropicales. Moi, je crois que la préparation, pour parler du Togo, puisque nous sommes au Togo, mais c'est valable pour toutes les autres institutions, les autres pays, c'est d'abord de discuter et de dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter dans ça? Comment je vais le faire? Avec qui? Et en fonction de ces objectifs, on forme les délégations. Mais on fait le contraire. Ceux qui vont à la COP, on le sait déjà, et pour avoir fait presque toutes les COP, je sais que 90% des gens, des Africains, délégations qui y vont, ils vont pour rien du tout.
Et docteur, est-ce que ce n'est pas ça aussi notre problème? C'est-à-dire, quand on veut faire les choses, on ne les fait pas bien, c'est-à-dire, il n'y a pas du sérieux.
C'est, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de sérieux, parce que bon, l'un des grands problèmes, c'est que pour beaucoup, ceux qui prennent les décisions n'ont pas l'information. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut corriger, c'est un peu ma motivation pour venir à ces émissions-là, parce que j'ai beaucoup évolué dans ce système-là. Mais la vérité est que quelquefois, on est surpris par la surprise de ces dirigeants quand il nous arrive de discuter avec eux. Ils nous disent, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je peux vous dire des choses qui vont surprendre plus d'un dans la gouvernance de l'environnement et autres. Et donc ça, vraiment, c'est le premier problème, c'est l'information. Mais également aussi, ces responsables doivent aller vers l'information. Doivent mettre en place des systèmes de remontée d'information qui leur permettent de prendre des décisions qui sont bien sur la base de la bonne information. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, je disais, ça, c'est le premier défi, c'est le défi de la gouvernance. Oui. Le deuxième défi, c'est le défi des écosystèmes qui sont dégradés. Mais ce défi-là est lié à ce qu'on appelle dans nos jargons techniquement, ce qu'on essaie de régler par la transition écologique. Notre modèle de développement économique. Raisonnons simplement. On aspire au développement, tel que les pays développés et autres. Si ça arrivait, ça veut dire en termes de besoins d'énergie, en termes de besoins d'eau, parce que tous ces besoins-là sont donnés par ce qu'on appelle les services des écosystèmes. L'eau potable, l'énergie, ainsi de suite. S'il arrivait que les pays sous-développés arrivent au niveau de développement des pays développés, ça voudrait dire qu'on aurait besoin d'au moins 3 continents Terre pour ça. Ça veut dire que l'hypothèse de départ est fausse. On veut aller vers le développement, on travaille vers le développement, vous voulez avoir la clim chez vous, vous voulez avoir l'eau courante, l'eau chaude, il vous faut de l'énergie pour tout ça. Mais si ça arrivait, ça voudrait dire que la Terre ne supporterait pas une telle charge. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est là la chance, et j'insiste beaucoup, pour l'Afrique, de ne pas reproduire le modèle qui nous a menés à cette situation actuelle. Et c'est là tout le sens et le contenu qu'il faut donner à la transition écologique. Et je renvoie encore la réflexion au niveau des universitaires, pour nous proposer de nouveaux modèles en phase avec nos cultures. Parce que ça, on l'oublie. On a des cultures merveilleuses qui ont bâti des systèmes extraordinaires. Et je donnais le cas des forêts sacrées en termes de conservation et autres. Et je peux en donner un pagaille égal. Et je crois qu'il faut revenir à notre essence parce qu'on a beaucoup à offrir. Beaucoup plus que ce qu'on nous fait croire. Et je crois que ça va être l'enjeu majeur. Quand on va parler de transition écologique, il faut lui donner cette connotation, ce contexte africain. On a tout à donner, on a tout à proposer. Et quand vous regardez actuellement les nouveaux modèles émergents, je vais au congrès mondial de l'UICN la semaine prochaine, mais les modèles achevés de nature-based solution, mais nos grands-parents le faisaient depuis. C'est pas nouveau pour nous. Peut-être pour eux, après avoir fait le tour de la question, ils reviennent au point où nous, on était il y a 30 ans, 40 ans. Allez regarder la charte de Kourouken-Fougan, qui a été établie depuis je ne sais combien d'années. Mais les principes fondamentaux de la gestion durable de l'environnement, ils sont déjà. Ce n'est pas nouveau. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut aller. Donc le deuxième défi, pour régler toutes ces questions à travers les différentes thématiques, eau internationale, polluants organiques, persistants et tout, il faut re-questionner notre modèle de développement et regarder dans ce que nous avons, ce que nous sommes. Le troisième défi, c'est bien sûr...
Docteur, sur ce plan, est-ce que ça veut dire que finalement, quand on prend nos réalités aujourd'hui, le modèle que nous proposons, peut-être si nous voudrons quand même avoir ce modèle de développement à l'européen, et finalement, ça ne concorde pas ou ce n'est pas adaptable alors à notre réalité?
Absolument non, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, parce que qu'est-ce qui se passe? Pour soi-disant régler un problème, vous en créez 10. On ne peut pas aller dans un modèle comme ça. On ne peut pas aller dans un modèle comme ça. Et c'est le modèle qu'on nous propose. On ne règle pas un problème en créant beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut régler.
Est-ce que ça ne revient pas sur cette première question que vous avez évoquée, c'est-à-dire le problème de gouvernance, c'est-à-dire il n'y a pas une politique adaptée quand même à ce modèle de développement?
Absolument. Il n'y en a pas. Et nos modèles de développement économique et tout, ce sont des modèles qui sont conçus pour nous maintenir dans la dépendance. Il faut rompre avec cette dépendance-là. Ce sont des modèles qui sont conçus à dessein pour maintenir les pays pauvres riches en ressources naturelles dans la dépendance. Il faut rompre cette dépendance. Et on a les moyens de le faire. On a les moyens de rompre cette dépendance, mais ça passe d'abord encore par une prise de conscience et une auto-prise en charge de la réflexion et pour poser les éléments conceptuels qui permettent maintenant de définir ce nouveau cadre dans lequel nous serions à l'aise, mais pas dans ce modèle tel qu'il est défini.
Docteur, le troisième défi?
Le troisième défi, c'est la mobilisation des finances. Et ça, c'est le grand problème. Je ne dirais même pas le grand problème. J'ai pas envie de dire le grand scandale. Il y a énormément de besoins. Il y a énormément de ressources, on n'arrive pas à régler les problèmes. Et entre-temps, il y a tout un paquet d'intermédiaires qui est venu s'infoder dans le système pour le siphonner, entre guillemets. Et ça, c'est le gros problème. La pauvreté est devenue un business.
Comment ça, docteur?
Ben oui, parce que sous prétexte qu'il y a un besoin, il faut mobiliser de l'argent. Ok, on mobilise de l'argent. Mais on vous met tellement de critères, de conditionnalités pour être. Les gens entendent tout le temps, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Mmh. C'est vrai, il y en a.
Mais c'est ça se trouve où, cet argent?
Cet argent est là. Maintenant, la question, c'est toutes les procédures, les techniques, formulation de projets et trucs comme ça qui posent problème. On a mis tellement de barrières dedans. Voilà, que pour les lever, il faut d'autres intermédiaires qui viennent et que finalement captent toute la dividende de ce processus-là. Et l'Afrique, encore, en termes de capacité à tous les niveaux, au niveau systémique, au niveau institutionnel, organisationnel, au niveau individuel, est très faible et n'arrive pas. Regardez, je prends un exemple. Le fonds vert pour le climat, depuis quand on en entend parler? Depuis très longtemps, le fonds d'adaptation, depuis longtemps. Au jour où nous parlons, le Togo en tant que nation, avec tous ses experts, n'a que l'ODEF qui est accrédité pour mobiliser des projets pas supérieurs à 1 million de dollars. Ce n'est pas compréhensible.
Pas supérieur à 1 million de dollars?
Non, pour une organisation.
Oui.
Alors que pour le DCF, un micro-projet, c'est 10 millions de dollars. Un petit projet, c'est 50 millions de dollars. Un projet de moyenne taille, c'est 250 millions de dollars. Et le Togo n'est accrédité? Déjà, pour le fonds vert, il n'y a pas d'entité togolaise qui est accréditée. Il n'y en a pas. Depuis que le fonds vert existe, il n'y a pas une entité togolaise qui est accréditée au fonds vert climat.
C'est quoi le souci?
Mais moi, je me pose la question. parce que vous avez suffisamment d'experts pour lire les critères d'accréditation, remplir un dossier d'accréditation et faire accréditer n'importe quelle organisation. Mais qu'est-ce, et d'autant plus qu'il y a de l'argent même pour financer ces processus-là. Alors, comment comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, qu'il n'y ait aucune organisation togolaise accréditée au Fonds vert? Il y a un problème. Et on ne peut pas l'imputer à d'autres pays, à d'autres personnes. Et c'est ça, et c'est ça la question. Ce sont les vraies questions qu'il faut poser. Il y a énormément de ressources pour vous accompagner dans ce processus. Vous avez des ressources intellectuelles. Il y a, et je connais d'éminentes personnes avec qui je travaille ici, qui peuvent vous faire le dossier d'accréditation en orientant. Mais c'est justement ce dont je vous parlais, cette panoplie d'intermédiaires et autres qui font que ceux qui doivent prendre les décisions ne sont pas informés et qui posent des problèmes. Ce qui fait que on a, à ce jour-là, avec le fonds d'adaptation, réussi à faire accréditer l'ODEF pour 1 million de dollars. Mais vous m'excusez tard, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est des questions sur lesquelles il faut s'asseoir et régler ces questions-là au plus haut niveau. Et ça, c'est la volonté politique qui intervient en disant « je veux faire accréditer tel, tel, tel ». On vous donne de l'argent pour ça. Le FEM a de l'argent. Le Fonds vert pour le climat a de l'argent. Le Fonds d'adaptation a de l'argent. Bientôt, le Fonds de réponse au truc également de l'argent. Mais, encore une fois, on ne peut pas continuer d'accuser les autres pour des décisions stratégiques qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas prises. Mmh. Donc, c'est ça.
D'accord. Jamel Pouli, vous avez écouté, docteur, sur ces questions alors de l'environnement. Il a parlé alors de 3 grands défis et il a évoqué alors ces défis. Et finalement, on pourra voir justement alors de la crédibilité dans ce qu'il a dit.
Je crois que c'est une question de spécialiste. Et la dernière fois, la 80e Assemblée générale des Nations Unies, moi, j'ai été surpris d'entendre le président américain tenir un discours contraire à celui que nous venons d'écouter de la part des spécialistes, alors que l'alerte est vraiment là. Et encore que nous, ici, on peut se dire qu'on n'est pas totalement dans une situation catastrophique, mais c'est maintenant qu'il faut sensibiliser, et le docteur vient de le dire, c'est ça qui est important, parce que quand on entend des discours comme celui de Donald Trump, après on reste dans nos habitudes où on mène parfois même des actions contre l'environnement, et cela le paie cash aujourd'hui avec les conséquences que nous vivons avec ces inondations là. Il y a quelques années, il y avait des quartiers ici qui étaient secs en saison de pluie. Mais aujourd'hui, c'est comme si on s'enfonçait. Et donc, ce sont les effets. Et donc, tout cela, je crois qu'il faut beaucoup plus écouter les spécialistes. On n'entend pas beaucoup, et même nous-mêmes dans la presse, aujourd'hui au Togo, vous allez voir à peine un ou deux journalistes qui s'intéresse aux questions de l'environnement. C'est un peu à l'image de notre société. Nous parlons de beaucoup de choses, et très peu de ces questions environnementales, alors que nous, peut-être, nous allons y échapper, mais nos enfants et nos petits-enfants, ils vont payer. Nous payons déjà un peu, mais ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour cela que, de temps en temps, il faut des voix comme celle du docteur pour nous dire attention. Il faut qu'on vive en fonction des générations futures. Et ça, on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. On n'est pas prévoyant. On ne travaille pas suffisamment. Et donc, je pense que... moi, je ne suis pas spécialiste de l'environnement, mais c'est, quand j'écoute ces voix, je me dis oui, il faut quand même que chacun s'intéresse à cela.
Et que ces voix deviennent de plus en plus audibles.
Oui, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Par exemple, au Togo, nous avons une vaste campagne de reboisement qui consiste à planter le milliard d'arbres. Mais je ne sais pas qui parmi nous ici a une fois planté un seul arbre depuis que ce projet-là est lancé.
Je l'ai fait quand même.
Oui, ben là, je crois que tu... Alors, bon, c'est deux sur... sur 5, ça fait 40%, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous le faites tous les ans? Et moi, je crois que cette année, en tout cas, l'année prochaine, on va s'y mettre. On a vu notre confrère, Loïc Lawson, avec l'IPF, qui avait tenté de le faire une ou deux fois, mais après ça aussi, c'est entré dans les oubliettes. C'est dire que nous n'en faisons pas une grande préoccupation. On parle de tout, sauf de l'environnement. Et c'est un discours qui est un peu rare dans les échanges, alors qu'il est très important. Et je pense que c'est un sujet... avec votre invité, peut-être d'autres encore qui s'y intéressent, il faut qu'on puisse en parler. Là, vous allez voir la presse. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu des articles sur l'environnement où un de mes collaborateurs, voilà, ça j'oublie souvent de parler d'environnement. On a comme l'impression que ce n'est pas une question qui nous regarde directement, même si des spécialistes explique aujourd'hui ce qui se passe le réchauffement climatique, notre action sur l'environnement. Mais je crois qu'on n'est pas suffisamment sensible à ces questions.
Merci beaucoup, Germain. Oui, Femé, d'après les explications alors du docteur Saliou tout de suite, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a déjà, ou on n'a pas l'impression qu'il y a déjà un système qui est mis en place et ce système qui continue de mettre l'Afrique dans un état de... Je ne vais pas parler alors d'état de pauvreté, mais dans un état où on le connaît actuellement.
Oui, mais je pense que c'est la chose la plus normale. Vous suivez la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les Africains se plaignent du fait que, bon, jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas un pays africain qui soit arrivé en finale de Coupe du Monde. On se plaint tout le temps. C'est parce qu'en réalité, le monde est à l'ouest. Il y a des gens qui décident de l'organisation de la Coupe du Monde, qui décident de qui vont aller en finale. S'il y a un pays africain, bon, on a connu l'histoire du Maroc. On sait que le Maroc, ce n'est pas un pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on ne classe même pas le Maroc comme un pays africain qui soit allé en demi-finale. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui décident comment sera l'Afrique, qui décident comment sera le monde.
Mais est-ce qu'il n'est pas temps que nous décidons aussi?
Non, comment vous pouvez vous décider? Ce n'est pas possible pour le moment. Pour le moment, c'est le grand qui écrase le petit. Oui, c'est les réseaux qui écrasent l'Afrique. Bien sûr, on se plaint, mais le problème, c'est quoi? Vous connaissez Donald Trump. Vous savez, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Premier mandat, deuxième mandat, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un gars convaincu par rapport à son pays. Si vous suivez un peu l'histoire de Donald Trump depuis les années 70, 80, tout ça, le gars disait déjà qu'il serait président. Parce qu'il avait une vision des États-Unis. Et quand il est arrivé au pouvoir, tous ceux avec qui il avait ceux-là qu'il a mis dans son gouvernement sont des gens, la plupart sont convaincus de là où il veut aller. Et donc vous avez vu là commencer à supprimer l'USAID, tout ça, même l'autre visa, cela est en train de changer de forme avec un dollar, ainsi de suite. C'est-à-dire que les gars ont une vision. Et ceux-là qui l'entourent aussi ont une vision par rapport aux États-Unis et par rapport au fonctionnement du monde. Ça veut dire quoi? Nous, quand je suis au pouvoir, les États-Unis seront toujours grands et nous allons écraser les autres. C'est ça, en fait. Quand vous voyez, par exemple, le Cornu qui est là, ce sont des gens qui ont une vision par rapport au monde. Je ne sais pas si vous suivez Dominique de Villepin. Il a été Premier ministre de la France, il a été ministre des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, il parle toujours du monde, de la position de la France par rapport à ce que lui et Chirac avaient décidé que la France sera aujourd'hui. Et vous voyez que c'est des gens qui sont convaincus. Quand vous voyez Poutine, c'est un gars qui a fait le 20e siècle, la guerre froide. Et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dérouler, c'est faire la nostalgie de soviétique. C'est un gars qui a une vision par rapport à l'URSS. Il sait là où il est en train de faire. La guerre d'Ukraine et tout ça, là, c'est dans sa vision. C'est que vous imaginez, peut-être il y a des chefs d'État qui arrivent au pouvoir. Ils ont cette vision par rapport à l'Afrique. Dans tous les domaines, mais ceux-là, peut-être leur entourage, peut-être pose problème. Vous arrivez au pouvoir, vous allez prendre un ministre, peut-être qui a fait la France, qui a fait les États-Unis, et bien il devient ministre. Est-ce qu'il y a une vision par rapport à l'Afrique? Est-ce qu'il y a une vision par rapport au monde? Est-ce qu'il y a une vision par rapport à la CEDEAO, par rapport à la CEMA, par rapport à l'Union africaine? Si nous composons des gouvernements sans tenir compte de ces critères, moi je pense qu'on n'ira nulle part. Puisqu'on parle de l'Afrique, ce sont les humains, c'est nous qui constituons l'Afrique. Vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez parler, quand on parlait du Togo avec le conseil régional, vous disiez, mais le Togo, Togo, c'est une entité, mais c'est les Togolais qui composent le Togo. Si par exemple, nous voulions d'une Afrique prospère, merveilleuse, capable de marcher sur les urnes dans le monde, il va falloir que tous ceux-là qui sont des Africains soient imbibés, soient convaincus de cet idéal. Sinon, ça ne marchera pas. On va toujours se plaindre.
D'accord. Samir, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique aussi arrive à décider?
Est-ce que nous sommes conscients que l'environnement, c'est le soubassement? Est-ce que les Africains sont conscients dans l'élaboration des politiques publiques? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les différentes politiques publiques dans tous les pays africains, notamment au niveau de la CEDEAO, quelle est la représentativité de l'environnement dans les politiques publiques? Le PND, par exemple, la feuille de route gouvernementale, quel est le pourcentage qu'on accorde? Alors que toute action qui implique l'intervention de l'humain, ben on fait appel à l'environnement. La preuve, là, nous sommes en train de subir. Quand vous prenez toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, toutes les capitales, au-delà des grands travaux pour contenir les inondations, mais quand il pleut, ce sont des inondations meurtrières. Allez à Abidjan, allez à Accra, allez à Dakar, mais allez à Cotonou. Malgré tous les travaux qui ont été faits, les longues sécheresses, nous sommes incapables, nous-mêmes, de mobiliser les ressources au plan interne pour ne serait-ce que créer les forêts communautaires. Parce que je pense que c'est l'une des initiatives qui sont prises aujourd'hui dans les pays africains pour essayer de redorer ce couvert vert-là, donc de nos pays et tout cela. Ça veut dire qu'en fait, en amont, nous n'avons pas encore mesuré l'importance et l'impact de l'environnement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et tant que, au niveau de l'Afrique, au-delà de ce qu'on peut dire que oui, aujourd'hui, nos pays, nous disposons des politiques environnementales, nous disposons d'un cadre juridique adéquat, nous avons un département ministériel qui est dédié à ces histoires de l'environnement. Maintenant, reste à savoir dans le budget de l'État, combien on accorde au secteur de l'environnement? Quelle est l'ambition que nous avons pour notre environnement? Parce que c'est vrai, aujourd'hui on dit il faut aller chercher les ressources à l'extérieur. Mais ceux qui mobilisent les ressources à l'extérieur, parce qu'en termes de financement, c'est celui qui vous donne de l'argent qui vous dicte de comment vous allez utiliser l'argent. Alors que les réalités en termes environnementaux aux États-Unis ne sont pas les mêmes réalités en Afrique. Nous avons nos réalités et ce que nous subissons comme impact. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le docteur Lespère sur cette amalgame qu'il y a en termes de développement à l'européenne, à l'occidental, mais on ne pourra pas aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans ces pays-là, il y a beaucoup de canalisations, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais qui ont un impact sur l'environnement. Si nous tous, nous allons dans ce sens-là, alors qu'en Afrique, nous avons des potentialités naturelles qu'on pourra véritablement agir dessus pour essayer de créer un modèle propre à l'Afrique si nous voulons nous fondre dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors que nous n'avons pas les moyens pour faire face aux conséquences de cela. Eux, ils ont des moyens aujourd'hui. Donc, je pense que la première des choses, c'est de prendre conscience que si nous voulons impulser la prise en compte des questions environnementales dans la mise en œuvre des politiques publiques, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons prêts à consacrer de notre ressource humaine, de notre ressource financière et puis de l'engagement politique. Tout part de la volonté politique. S'il n'y a pas une volonté politique de faire en sorte que les ressources nationales puissent également contribuer à assainir notre environnement, à répondre aux défis liés à l'environnement et à faire en sorte que on crée un cadre environnemental qui permet à ce que les populations puissent s'épanouir, quels que soient les financements que nous aurons prendre ailleurs, quels que soient les programmes que nous mettrons en place, parce que nous ne le faisons pas pour résoudre les problèmes de façon durable, nous le faisons parce que nous voulons aller chercher les ressources. Et c'est le problème de la plupart des pays africains. Dès que les ressources là finissent, demandez-moi quel est le suivi qui est fait. Il n'y a pas de suivi, ce qui fait que même s'il y a un impact qui est créé à la suite de la mise en œuvre de ces programmes, mais après, à retourner sur le terrain, regardez ce qui a été fait. Vous ne verrez pas une suite logique donc dans ce sens-là. Et qui sont ceux qui perdent ce sont les populations d'accord. qui sont obligées de se déplacer à longueur des années.
Oui. Et alors, c'est vrai que dans le propos alors de Dr Salou tout de suite, docteur disait qu'il y a un système qui est mis en place où de telle enseigne que la pauvreté devient business. Et ce système-là est fait de telle enseigne que quand on prend des pays qui doivent accéder même au financement, il y a toute une barrière qui est mise tout autour alors de ce financement, de telle enseigne qu'il faut toujours un intermédiaire avant que ces pays n'accèdent alors à ce financement. Est-ce que ce n'est pas aussi un blocage?
Oui, nous sentons aujourd'hui les effets des changements climatiques sur les politiques environnementales. Bon, si les gens ont leur programme, comme le dit M. Firmin, et comme le dit le docteur, il va falloir que nous-mêmes on se prenne en charge. D'abord, nous parlons de la carte du monde où l'Afrique est sous-représentée en termes de superficie. On n'a pas besoin aujourd'hui des Occidentaux pour changer ça dans nos manuels. Tous nos dirigeants en parlent, et nos grands dirigeants même. Un de nos grands dirigeants,
professeur Robert Doucet, voilà. A parlé même à la tribune des Nations Unies.
Il est au gouvernement, ça fait 13 à 15, 20 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il ne convie pas ses pairs pour que tout cela... Aujourd'hui, ce problème-là est une vérité scientifique. Est une vérité scientifique que l'Afrique est sous-représentée sur cette carte-là. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de convier ses autres collègues qui sont également d'éminentes personnalités académiques, des professeurs d'université, pour qu'ils changent juste, au moins sur le plan de Togo, cette représentation. Mais je ne suis pas sûr que Donald Trump va envoyer une fusée sur le Togo parce qu'on a changé le manuel de carte qu'on utilise dans notre livre scolaire. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est sur nos ressources énergétiques. Les autres viennent puiser chez nous. Et vous avez dit, ils ont mis en place des systèmes. Mais il faut... au fur et à mesure, essayer de dégripper la chose, d'enlever leur emprise sur la chose. Quand vous voyez notre phosphate, il y a un tunnel directement qui va vers la mer, qui contrôle la quantité qui sort. Quelle politique on a que pour dire, OK, dans 20 ans, il doit rester un peu pour nos populations. Donc aujourd'hui, quand vous voulez puiser dans tel nombre. Nous voyons dans d'autres pays, en Guinée, au Burkina Faso, comment les pays aujourd'hui s'efforcent de mettre au pas ces multinationales. Et d'ailleurs, des fois, quand on veut signer les contrats, on se demande comment ils font pour signer des contrats qui lèsent notre propre pays. Ils vont dire que, comme le docteur l'a dit, ils vont dire qu'ils ont les capitaux. Mais c'est nous qui avons les ressources. Donc, si nous-mêmes qui avons les capitaux et les ressources qui doivent être prises en compte dans la pondération des choses, mais nous pensons que, bon, et 20% c'est bon pour nous, le blanc peut venir avec 1 milliard et puis ça va. Des fois même, c'est avec notre contrat qu'ils vont chercher l'argent à Dubaï et qu'on sort. C'est avec la signature de nos États qui vont chercher l'argent. Donc, il nous appartient. C'est vrai, il y a un système qui met le genou sur notre cou, mais il va falloir que progressivement, nous prenions conscience et nous essayons dans notre façon de faire et nous prenions des dispositions pour qu'on sente. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais progressivement, on doit sentir dans l'attitude de nos dirigeants togolais, africains et des leaders panafricains que les choses sont en train d'être changées. Malheureusement, aujourd'hui où l'Afrique veut se développer, nous qui sommes un peu panafricains, on se dit, ils veulent nous parler de l'environnement pour nous empêcher de se développer. Mais comme le docteur l'a dit, heureusement, il y a des paradigmes que nos ancêtres ou bien qui ont fait leur preuve. Et en Égypte, par exemple, ils savaient que le Nil est plein en ce moment, le Nil est en décrue en ce moment, et ils ont adapté leur vie là-dessus. Et l'Égypte, à l'époque, était l'une des meilleures civilisations mondiales. Tout repose sur nous-mêmes, sachant ce que les autres veulent faire de nous. Il faut qu'on soit vigilant.
Oui, docteur, est-ce que nous n'avons pas aussi ce malheur-là de ne pas être toujours d'accord sur l'essentiel en Afrique?
Oui, c'est ça. Et encore, ça revient à cette question de réfléchir les problèmes qui se posent à nous sous notre propre perspective, pas sous la perspective des autres. Et c'est pourquoi il y a cette question de la vision et ce point, j'insiste beaucoup, c'est important pour moi, et de former les jeunes. Et j'ai été marqué actuellement ce qui se passe en Chine, la montée en puissance de la Chine. Mais c'est un processus qui a démarré longtemps et qui trouve ses soubassements dans la formation et l'éducation. Moi, j'ai été surpris et impressionné quand je suis allé à la Silicon Valley, notamment quand je suis allé à Berkeley University, Mais on pense qu'on est en Chine. Il y a énormément de jeunes étudiants chinois qui sont là-bas. Et dès qu'ils finissent, ils rentrent. Lors de mon dernier voyage à Addis, j'ai rencontré un groupe d'étudiants chinois aux États-Unis qui venaient faire un voyage d'études en Afrique. Ils sont même passés par le Togo et autres. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler à déconstruire les mécanismes qui les maintenaient dans cette dépendance. Et c'est ce que l'Afrique doit faire. Il faut déconstruire ce mécanisme et on ne le fera qu'à partir de la jeunesse. Et j'insiste beaucoup et je travaille beaucoup sur ça. J'ai rencontré énormément de jeunes Africains, aussi bien dans le pays que dans la diaspora, extrêmement brillants, sur qui les pays doivent s'appuyer parce que eux, au moins, ils ne sont pas formatés à l'ancienne. Il y a une génération, pour être honnête, en Afrique, c'est une génération, je dirais, perdue. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà formatés. Ils ne peuvent pas réfléchir en dehors du carré qu'on a déjà décrit pour eux. Et c'est avec ces jeunes qu'on va déconstruire ces mécanismes. Maintenant, on les déconstruit pas avec la violence, mais avec la science, avec l'argument. Et il y en a en pagaille. J'avais créé, je me rappelle, une initiative, The Young Talent Initiative, dans une structure dans laquelle je travaillais. Mais devinez quoi? Ce sont des Africains qui ont perçu ces jeunes comme des menaces à leur poste qui ont torpillé la chose. Mais il faut aller dans cette direction. Il faut travailler avec cette jeunesse. Il faut travailler avec cette jeunesse scientifique. C'est notre plus grand trésor. Et ça va nous permettre de déconstruire ces mécanismes-là et changer les paradigmes. Il n'y a pas d'autre moyen.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Docteur, vous restez avec nous. C'est vrai que déjà à partir de midi, nous donnons la parole à nos auditeurs et ils vont certainement vous poser des questions. Toutefois, nous allons continuer le débat ici, et le débat surtout sur l'actualité hein, chez nous au Togo. On sait que déjà, ce qui est aussi dans l'actualité, c'est cette réaction hein, ou cette déclaration alors du ministre Robert Doucet à la tribune alors des Nations Unies. Il y a des journaux qui sont revenus hein, sur le sujet, les journaux. Il y a l'Union, hein, le journal L'Union qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit Togo, Afrique, réforme de l'ONU, panafricanisme, trois points de suspension, les mots juifs de Robert Doucet. Autre journal, c'est le Canard indépendant, le journal Le Canard indépendant qui écrit discours de Robert Doucet à l'ONU, ironie, mauvaise appréciation des réalités ou volonté manifeste de mener l'opinion en bateau. C'est une question que le journal se pose. Germain Pouli, vous avez écouté justement cette déclaration du ministre Robert Doucet et effectivement la phrase phare qui fait même d'ailleurs le tour des réseaux sociaux, c'est que le Togo va bien et il a poursuivi même pour dire que le Togo va mieux d'ailleurs. Et comment vous analysez ce discours?
Ben, je crois qu'on en a un peu parlé le vendredi dernier. Hein, et le ministre Robert Doucet s'est fondé en partie également sur le rapport IDH publié par le PNUD, qui est un des organes de l'ONU. Donc, il est à l'ONU, c'est normal qu'il cite des sources onusiennes qui classent le Togo aujourd'hui parmi les deux pays où l'indice de développement humain est élevé et arrive à un niveau moyen. Donc avant, c'était faible, ce moyen maintenant, en attendant d'évoluer vers cet indice qu'on remarque dans les pays développés. Donc il n'a rien dit de nouveau. On l'avait dit ici vendredi dernier, certains ne croyaient pas. Quand on dit que le Togo vient juste après la Côte d'Ivoire, ils en sont un peu surpris. Donc, parce que pour eux, comme il y a la vie chère, c'est que rien ne va.
Oui, justement.
Et quand un ministre dit ça va ou ça va mieux, les gens trouvent que tant qu'ils n'ont pas l'argent dans la poche, c'est que ça va pas. Et on en parlait en début d'émission quand on parlait de santé. Vous allez voir des gens en bonne santé, mais tu lui demandes comment ça va, il dit ça va pas. Juste parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il estime que s'il avait l'argent, il pourrait dire ça va. Voyez un peu, en fait, c'est pour résumer.
Mais est-ce que c'est pas aussi une réalité? Si, du moins, comment se fait-il que je pourrais dire que ça va si, tant est que je peux pas même faire sortir 200, 300 pour acheter ce que je veux?
Oui, mais moi, quand on dit ça va, on te demande pas si tu es riche. Ça va, est-ce que tu vas bien? Peut-être le moral est un peu bas parce que tu n'as pas assez, parce que tu n'as pas assez d'argent. Mais en réalité, si tu es en bonne santé, ça va. Mais quand vous allez à l'hôpital, on ne demande pas à quelqu'un ça va. On lui demande est-ce que ça va mieux aujourd'hui. On ne lui demande même pas si ça va. Parce que c'est une autre question qu'on lui pose. Parce que là où il est, on ne peut même pas lui demander ça va. Il est là-bas parce que ça ne va pas. Donc voilà, maintenant, c'est un débat. Je crois que, encore une fois, on confond les progrès et les solutions à la vie chère. C'est-à-dire que il y a des pays, quand vous arrivez, premièrement, vous voyez des immeubles, la ville est jolie, vous dites, mais le pays est développé. Mais quand vous posez la question aux habitants, ils vous diront, non, ça ne va pas. Mais la première impression que vous avez eue en rentrant dans ce pays, ah, mais ici, tout est joli, tout est développé. Mais les gars vous diront, mais on ne mange pas notre faim. Tout est cher ici, les loyers sont chers, la nourriture est chère, le déplacement
mais
est cher.
Mais tout cela aussi ne définit pas notre état, Adam.
Oui, mais quand on dit ça va, en fait, tout à l'heure, quand on m'a demandé si ça va, j'ai dit ça va, grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai l'argent. Mais j'ai répondu à la question. Maintenant, si tu me demandais 15 000, je te dirais, ben, j'en ai pas. Tu vois, c'est une façon de parler. Donc, je crois que c'est un débat. Robert Doucet n'a jamais dit que tout allait bien au Togo.
Mais quand il dit tout va bien.
Tout va bien, oui. Et il a encore dit, et tout va mieux.
Mais est-ce que, voilà, il n'y a pas eu quand même de contradiction. Si non, on dit tout va bien.
Il n'y a aucune contradiction.
D'accord. Ok, ouais. Merci Germain. Oui, Samir, je vous voyais sourire quand Germain parlait. Mais comment vous analysez cette déclaration lors de Robert Doucet?
Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre l'approche que j'ai de ces propos-là. Vous savez, dans cette histoire, j'ai compris que les gens ne connaissent pas l'ONU. Je ne sais pas comment fonctionne cette institution. Vous allez m'excuser, hein? Je pense qu'on doit faire un effort. Lorsque nous avons un représentant de l'État qui va dans une réunion, dans une conférence ou à une tribune, de faire un effort d'aller comprendre comment une institution fonctionne. C'est quoi le rôle de l'Assemblée générale? Pascal, dites-le-moi. Il dit que oui, Robert Doucet est allé parler du Togo à la tribune des Nations Unies au lieu de venir parler du Togo au Togolais. Mais attendez, je pense qu'on doit être sérieux dans nos différentes interventions. C'est pour ça que j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est un problème pour nos pays. On doit réglementer ça de façon urgente. Sinon, l'ordre social va s'effondrer. L'Assemblée générale, hein, c'est le lieu où les nations se retrouvent pour aborder des questions d'ordre international et des questions internes. Il faut que les gens retiennent ça une fois de bon. Robert Doucet, là, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et dans la conception de l'État moderne, le ministre des Affaires étrangères, c'est la vitrine de votre pays. Qu'est-ce qu'il va dire aux Nations Unies? Il va dire aux Nations Unies que, oui, le Togo est un pays bordel, le Togo est un pays où tout ne va pas bien. Vous voyez, ministre des Affaires étrangères, quel que soit ce qu'on dit de ce pays-là, aller raconter des conneries comme ça aux Nations Unies. Il vend le pays. C'est lui qui doit polir l'image du pays. C'est de bonne guerre. Il est dans son rôle. Ceux qui sont allés de façon alternative aux Nations Unies.
Ils sont pour pas allés aux Nations Unies.
Attendez. Attendez que je finisse. Attendez.
Je vous laisse.
Ceux qui sont.
On a fait ce débat le vendredi dernier. Je connais bien votre position.
Ceux qui sont.
Oui, c'est vrai, c'est
des faits.
Monsieur,
c'est
bon. Germain Pouli, s'il vous plaît. Ceux qui se sont dit. Parce que ça, c'est leur vocation, ça. Qui sont allés aux États-Unis dans le cadre de cette conférence-là, de cette Assemblée générale, dans le but de rencontrer les gens. Eux, ils sont allés chercher quoi en rencontrant les États? Eux, ils sont allés parler du Togo. Pourtant, ils pouvaient prendre l'avion de là où ils sont pour venir rencontrer les Togolais dans les contrées et échanger avec eux. Mais ils ont décidé d'aller là-bas. Donc, en fait, on a une mauvaise perception de la chose. Mais après, vous avez suivi la conférence des représentants du gouvernement dans la foulée des manifestations irrégulières et non autorisées. Vous vous rappelez bien, il y a des journalistes qui ont posé un certain nombre de questions aux membres du gouvernement pour dire est-ce que dans le pays tout va bien? Quelle a été leur réaction? Ils ont dit le gouvernement est conscient des défis et des difficultés qui s'opposent donc à la population quotidiennement. Ça veut dire que ceux qui sont à la tête du pays, vous pensez qu'ils sont déconnectés de la réalité?
ceux-là, chaque week-end, ils sont dans les villages, ils rencontrent les populations. C'est quand on est aux affaires qu'on comprend les arbitrages qu'on doit faire à un certain moment. Parce que les ressources là, les ressources, on les mobilise. Les ressources là, ce n'est pas quelque part où c'est stocké, où il y a un problème, on va, on puise pour aller déposer. Mais quand on n'est pas imbibé dans le circuit de la gouvernance, on ne sait pas comment on mobilise les ressources, on ne sait pas comment on met en œuvre les politiques publiques. On fait attention à ce qu'on dit et on évite de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc il est important que l'État prenne toute la responsabilité, comme dans la plupart des pays, notamment en Côte d'Ivoire, pour réglementer les réseaux sociaux. Sinon, notre société va s'effondre. D'accord. Et ce ne serait pas bien pour la nouvelle génération qui arrive.
Merci, merci beaucoup. Et Firmin,
moi, je voudrais
dire... Tout va bien quand même au Togo?
Non, tout ne va pas bien. Vous savez, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à Robert Dussey. La première chose, c'est que j'ai finalement compris que tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, toutes les contestations sont parvenues aux oreilles de ceux qui nous dirigent. Et je pense que c'est la réponse que le ministre a pu donner à la tribune des Nations Unies. Et c'est une réponse. Sinon, j'ai jamais vu Robert Dussey dans cette posture parler beaucoup plus de l'interne aux Nations Unies. C'est la première fois qu'il parle de l'assurance, qu'il parle
de la pauvreté.
De la pauvreté. Pour moi, c'est
de l'électricité.
De l'électricité, c'est la première fois. De l'eau. Mais ça veut dire, il est conscient que il y a des contestations relativement à ce domaine cité aux Nations Unies. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui les critiquent, ils doivent savoir que les autorités les écoutent. La deuxième chose, vous savez, on dit, la France sous Macron, si vous demandez à Marine Le Pen ou à Badella aujourd'hui comment va la France, ils vous diront que la France va mal. Vous n'allez jamais entendre Emmanuel Macron dire la France va mal. Jamais. Il va dire oui. C'est ça, en fait, un dirigeant. Un dirigeant ne va pas dire oui. Quand il est dans l'opposition, il dit non, tout va mal. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, mais il va dire que tout va bien en réalité. Sauf qu'il y a des défis. Macron va vous dire, on dirait que c'est le pire des présidents. Mais il dira jamais que la France va mal. Oh, maintenant, tout va mieux. Oui, maintenant, sur ce point, tout va mieux. Comment il a dit? Il dit tout va bien, tout va mieux.
Mais tout va mieux.
Oui, le Togo va mieux. Oui, le Togo va mieux. Le Togo va mieux. Par exemple, quand vous voyez un peu le boulevard Jean-Paul II, le boulevard Jean-Paul de 2005 est différent du boulevard de Jean-Paul II d'aujourd'hui. Il y a des milliers de femmes qui bénéficient de Ouezou, c'est ça, non? Ouezou, assurance femme. Il y a des milliers de personnes qui bénéficient aujourd'hui de AMU. Ça va mieux par rapport à la santé. Moi, je vous dis, il y a des centaines de personnes qui bénéficient de INAM. Ça n'existait pas. Quand on voit un peu Agoué et tout ça, Agoué de 2004-2005 est différent de Agoué d'aujourd'hui. Donc, il y a du mieux, en fait. C'est-à-dire, on fait des efforts. Mais sauf qu'en réalité, peut-être au niveau du panneau de la ménagère, il y a toujours des critiques. Je vous pose une question. Pascal, comment tu vas? Tu vas dire, ah, je vais bien. C'est ce que vous avez dit. Mais c'est globalement ça. Parce que vous marchez et tout ça. Même quand vous vous tenez sous le lit depuis tard, on vous dit, comment tu vas? Oui, ça va bien. Mais alors que vous n'allez pas au fond bien. En fait, c'est l'image qu'on polie. C'est-à-dire, ce que Robert Dussey est en train de faire aux Nations Unies, il polie l'image du Togo. Moi, en tout cas, pour parler de mon pays à l'international, quel que soit ce qui se passe au Togo, le Togo va bien.
D'accord. Oui, l'homme, est-ce que les mots étaient juste bien choisis? Le ministre était justement dans son rôle.
Oui, d'abord, il est dans son rôle. Et c'est un ministre que moi, j'apprécie. Sauf que cette sortie-là, il y a eu deux aspects de la sortie. Oui. Le côté panafricaniste, que moi, j'ai apprécié. Et même là-bas, il y a des réserves, puisque... il y a des choses que lui-même, il peut implémenter déjà. J'avais déjà dit ça lors de ma première prise de parole. Mais la seconde chose, que le Togo va bien, pour ma part, moi, je suis élu, j'estime que mes points de vue doivent ressembler à ce que les concitoyens disent. Selon ce que les concitoyens disent, le Togo ne va pas bien. Et le ministre, peut-être, il a trop transposé les réalités, il a trop parlé de l'interne là-bas. Il pouvait brosser ça. Mais aller dans les détails là, qui, ma foi, même si ces statistiques là reflètent des efforts que les gouvernants sont en train de faire, les efforts là, le rythme de ces efforts ne cadre pas ou bien ne matche pas le rythme des besoins des populations.
Mais après, il faut savoir aujourd'hui, qu'il est à la tribune des Nations Unies. Et c'est pour faire la visibilité justement du pays.
Dit, mais pour nous qui percevons ça de l'intérieur et pour nous qui représentons les populations, ça ne va pas bien. Parce que il y a un effort qui se fait. Il y a de l'amélioration. Oui, le monde avance. Le monde ne recule pas. Donc, la route de Saint-Jean-Paul d'aujourd'hui ne peut pas être la même chose. Ségbé ne peut pas être la même chose qu'il y a 10 ans. Mais l'effort qui se fait, eh bien, le résultat qu'on est en train d'obtenir et le besoin croissant de notre population, il y a une dichotomie. Donc, malheureusement, il a dit que ça va. Mais sincèrement, il sait que ça ne va pas Tout à fait. Ça, il a fait son job. Nous aussi qui sommes à l'intérieur, nous sommes obligés de lui rappeler la dure réalité des populations. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque beaucoup le lion déjà dit. Mais c'est un négociateur. Il a travaillé à l'ONU en tant que négociateur. Il a travaillé sur la paix. La paix, ce n'est pas seulement quand il n'y a pas la guerre. Il y a aussi la faim. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que négociateur, quelqu'un qui a l'oreille du président pendant plus de 20 ans, et il a fait même la rentrée internationale, la rentrée des diplomatiques, mais il n'a pas rencontré il n'a pas invité les opposants habituels, ceux qu'on connaît, qui quand même essayent de le titiller. Il n'a pas invité Jean-Pierre Fabre, ANC, Apevon et Togo Debout de Procès d'Auxerre, MMLK, du passeur de commis que je représente. Tous ces gens-là, il faut quand même qu'ils fassent également une rentrée politique ou bien diplomatique avec ces gens-là et qu'il use de son talent de négociateur pour que tous ces gens-là, ensemble, puissent contribuer au développement du Togo. Comme je l'ai dit à l'entame, moi je veux un Togo prospère pour nous tous.
C'est un Togo prospère que nous voulons tous ensemble pour nous tous, bien sûr. Nous allons donner la parole à nos auditeurs puisqu'il est déjà midi. Nous allons leur donner la parole de s'exprimer, de se prononcer également sur ces sujets débattus ici au Club de la Presse. Vous avez vu que nous avons réservé même une grande partie de notre temps à l'environnement puisqu'on n'en parle pas chaque jour, bien sûr. Et surtout que nous avons un spécialiste avec nous, et Dr Saliou, qui nous a donné des explications sur les défis, surtout de l'environnement et aussi comment relever ces défis aujourd'hui. Il en a parlé justement dans son intervention. Vous pouvez poser des questions et justement à docteur puisqu'il est toujours avec nous. 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Canal FM.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez réagir 90 45 78 57. Et je rappelle que nous sommes toujours avec Dr Saliou Ndoye qui est spécialiste en gouvernance internationale de l'environnement. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui, monsieur Maouna, comment vous allez?
Oui, ça va bien, monsieur. Comme le Togo va bien, moi je vais bien.
D'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Bienvenue le débat avec l'analyse, bienvenue. Monsieur Pascal.
Oui.
Tout à l'heure, sur le panel, nous avons dit que les Occidentaux ne nous respectent pas. On ne donne pas la valeur qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a pour ça, monsieur Pascal? Si nous-mêmes, nous prenons nos ressources, nos ports, pour avoir le fauteuil présidentiel. Pourquoi ils vont nous respecter? C'est même qui a posé ça, M. Pascal. On a brandé tout à coup du fauteuil présidentiel. Tout à l'heure, le docteur dit que si on veut corriger ça, c'est la jeunesse, M. Pascal. Si la jeunesse veut parler, on les emprisonne. C'est un peu pour un jeu à été pour la réforme. Quand est-ce qu'on peut changer, M. Pascal? Vous prenez le ministère de l'Église, les enquêtes, c'est le ministre qui est l'espèce, c'est quoi ça? Pour faire ce rapport, on va pas se faire. Quand ils viennent ici, on est dans un cadre de système avec des cafés, des champagnes, après on est dans le soleil doré, que les gouvernants aussi ont déjà fait. Ça va respecter quoi? Ça va donner quoi comme résultat? C'est ça. Il ne faut pas se mettre en train de faire le constat. Ils viennent dans le champ de terre. Et c'est le gouvernement, nous disons qu'ils n'ont pas les données. Qu'est-ce qu'ils ont à donner? C'est quoi ça? C'est compliqué, c'est compliqué. Tout en Afrique. C'est vraiment compliqué.
D'accord. Merci, monsieur Maouna, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute. Allô?
Allô?
Oui, votre nom?
Allô?
Décidément, il ne nous écoute pas. Nous allons prendre un autre auditeur.
Allô.
Oui, allô.
C'est Melchisedec.
Allô. Melchisedec. Vous nous appelez de quel quartier?
Allô.
Alors, Kiki, nous allons prendre un autre auditeur. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, chef.
D'accord, allez-y.
Je vous salue.
Oui, nous vous saluons aussi.
Oui, je vous remercie. Vous avez beaucoup parlé, mais on a senti que rien ne va. C'est-à-dire que tout le monde a parlé en nous disant que c'est pour aller vendre le Togo. Sinon, ça ne va pas. Hein? D'abord, avoir l'habillement de notre ministre. Moi, je me suis dit que le mélange a commencé, Imola a commencé par là. Parce que je ne sais pas, il a mis l'Occident en bas, il a mis l'Afrique en haut. Lui-même, il parle, il dit que le Togo va bien. Et mieux. On va prendre bien ou bien mieux. Donc, c'est bien qu'il y ait l'Occident, mieux qu'il y ait l'Afrique, ou bien quoi. Donc, son côté, ça. Bon, disons-nous la vérité. Quand Mme Nakade disait qu'il faut un Togo sans fort, à la tête. Il ne pas dit qu'un Togo sans fort au Togo, hein, sans fort à la tête. Donc, peut-être qu'il y a certains commandements qui n'arrivent pas à donner à ses subordonnés. Vous voyez comment le gouvernement traîne jusqu'à aujourd'hui. Il est fatigué, il ne sait pas comment faire pour former son gouvernement. Il a nommé Sarkinsa. Oui. Donc, on devait écouter la dame là. Et pour qu'on aille mieux. Vous voyez comment Rumbo est venu. Mais il n'a pas voulu se salir les mains, il est parti. Et ses commandements ne marchent pas. Mais il faut certains au pouvoir pour donner des vrais commandements pour que le Togo marche. Votre confrère Haïté disait, avant-hier seulement, que si unir convoque un congrès, c'est fort, comment, lutte contre la corruption, et ils convoquent un congrès, même les membres d'unir n'y ont pas. Parce qu'ils sont corrompus par Tchoukoutou, 2000 francs, les frais d'émission, etc. C'est pourquoi ils vont là-bas. Sinon, personne n'ira. Vous voyez? Donc, il faut un Togo sans fort pour que le Togo puisse marcher mieux. Mais si on dit que le Togo, on va adapter la Constitution à notre réalité, est-ce que c'est fort seul qui a la réalité? La réalité, c'est les autres aussi. Bonne émission.
Merci pour votre intervention, M. Nyamavo. Bonjour, chers journalistes. C'est vraiment difficile de parler d'environnement lorsque notre pays a tellement de problèmes à résoudre, même avec toute la volonté. L'environnement va passer au dernier plan. C'est Georges qui nous écrit à Ségbé. Allô?
Ah, Pascal, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, le gouvernement.
D'accord, allez-y.
Non, mais on va se dire la vérité. Tous ceux qui ont parlé avec vous, je n'ai pas salué, je ne les ai même pas salués. Bonjour tout le monde là-bas.
Oui, bonjour, allez-y, allez-y.
C'est que tout le monde sait qu'au Togo, ça ne va pas. Vous voyez, un pays qui ne paie pas conséquemment les travailleurs. Mais c'est ce pays qu'on va trouver quelque chose ici à 5000. Et là-bas, qu'on paie les gens, on trouve ça là-bas à 2000. Déjà, comment est-ce que ça va aller? Ça ne peut jamais aller. D'autres s'amusent même des fois à dire qu'on peut manger à Imam sans frais ici, qu'il faut aller en Côte d'Ivoire pour voir. Mais quand ils parlent de...
Mais oui, Basile, est-ce que ce n'est pas aussi une réalité?
Mais quelle réalité?
C'est-à-dire,
où vous trouvez à Imam la sans frais? Dans ce Togo, aujourd'hui.
Vous n'avez jamais acheté à Imolo 100 francs?
Aujourd'hui encore. Avant, oui. Vous voyez ça? Mais quand on vient, on dit la vérité. Moi, je pense que c'est mieux. Hein. On n'a rien à perdre en disant la vérité. Tu es même libre à la maison. Merci.
Merci, Basile, pour votre intervention 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour, c'est ici.
Bonjour, madame ici.
C'est la dernière, ce week-end. Bon, je fais coucou à tout le monde là-bas, à mes frères, à Sass, à Modeste et tout le monde, à Bialfa. Donc, voilà. Bon, j'ai ouï dire hein, que les Blancs ne respectent pas les dirigeants africains, du moins. Et c'est vrai. Même moi, je ne les considère pas trop, quoi. À voir ce qu'ils font, charcuter les lois de leur pays pour l'argent, le pouvoir, ne rien respecter. Même moi, ici, je ne les respecte pas. Pour que les Blancs les respectent. Et si je dois défendre l'indéfendable, j'ai dit une seule une fois à affirmer à mon frère que j'aurais préféré me supprimer de défendre, de venir défendre un régime qui foule toutes les lois aux pieds, qui opprime, qui fracasse les crânes, qui violente, qu'on a géré le pouvoir, qui ne respecte rien. À minuit une heure, on a brûlé, on a cramé notre constitution. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais c'est pas normal. Et puis, ce pays est dans cet état, hein, dans cet, bloqué parce qu'ils ne veulent pas alterner. Non, moi, je ne défendrai jamais un régime pareil, hein, qui ne nous donne pas à manger, qui ne nous donne pas notre droit, même pas le droit de vote. On ne l'a pas avec ce régime. Merci.
Merci, Madame Essi, pour votre intervention. Madame Essi, c'est la dernière auditrice pour le compte à l'heure de cette émission. Bonjour, Pascal. Comment allez-vous? Comment, dans un pays, quelqu'un qui n'arrive pas à payer un loyer de 4000 francs et un pays sans gouvernement depuis des mois, et on va dire que le pays va bien lui-même, c'est que rien ne va au pays. Le pays ne va pas bien. Si c'est un message de Fousséni. Fousséni qui nous écrit à Casablanca, bien sûr. Nous revenons au plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Fermez Teko Agbo, vous avez écouté les uns les autres, mais j'aurais voulu quand même que nous ne revenions plus alors sur la réaction des uns des autres, mais qu'on se prononce plutôt sur un sujet de notre choix, et surtout ce sujet que j'évoquais déjà en début d'émission, c'est cette enquête sur la qualité de l'éducation dans les écoles primaires qui s'ouvre le 13 octobre prochain. L'initiative est portée par le Centre national d'évaluation des apprentissages et elle vise à recueillir des données fiables pour mesurer les acquis scolaires des élèves et évaluer le fonctionnement global du système éducatif primaire.
Non, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça permettra d'avoir les réalités et de voir les acquis et de mentionner aussi les défis. Nous savons tous que les autorités togolaises, depuis un moment, sont engagées à mener le Togo sur le banc d'une éducation beaucoup plus intéressante. Mais à ce niveau, moi, ce que je leur demanderai toujours, c'est de faire des efforts pour que s'ouvrent les assises générales de l'éducation. Ça va beaucoup nous aider. Ça nous permettra de voir exactement toutes les difficultés que nous avons, les défis qui manquent ou les défis qui restent, et pouvoir nous positionner par rapport à l'avenir.
D'accord. Oui, Elom ?
Oui, c'est une bonne chose, cette enquête-là, puisque ça permet d'évaluer un certain nombre de choses, parce qu'il faut évaluer et voir les attentes pour pouvoir adapter, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Par exemple, et je l'ai dit ici aussi, que le ministre déjà peut sensibiliser ses collègues pour déjà commencer par implémenter un certain nombre de mesures que nous connaissons déjà, qui courent les rues maintenant avec le panafricanisme. On sait que, par exemple, sur la colonisation, l'histoire qu'on a racontée sur Béhanzin, qu'il était un sanguinaire, c'est pourquoi on est parti attaquer le Bénin. C'est pas vrai. Nos enfants ne connaissent pas Samori Touré. Moi-même, il a fallu l'année passée, avant que je cherche sur YouTube, dire, mais Samori Touré, là, je vais chercher son image et je l'ai vu. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger. Par exemple, et il y a bien des années que moi, j'estime que on doit enseigner l'agriculture à l'école. Par exemple, ceux qui sont au village.
Pourquoi pas l'entrepreneuriat?
L'entrepreneuriat, ceux qui sont au village. Et même la géopolitique, puisque les autres nations veulent nous coloniser, comme le docteur l'a dit. Il faut former nos enfants à être prêts pour éviter la troisième colonisation.
La géopolitique.
Si tous les pays se développent et que les ressources manquent, ceux qui ont la force vont aller là où les gens ne sont pas forts. Et la meilleure force d'une nation, ce n'est pas seulement les armées, puisque lors de la colonisation, les nations étrangères ne sont pas venues seulement avec les armes. Ils sont venus avec une portion. Ils avaient des missionnaires au sein de notre propre population. Voilà,
là, vous voulez parler des missionnaires, c'est ça?
Non, c'est-à-dire quand ils sont venus, missionnaires, ou bien ils sont venus avec les armes, ils n'étaient pas nombreux.
Samori Touré, par exemple. Ils ont travaillé sur notre conscience, c'est ce que
voilà, c'est pourquoi je dis qu'on doit avoir une bonne formation. Et je disais qu'il faut insérer l'agriculture, par exemple, dans nos cultures scolaires, puisque ceux qui sortent de l'école au niveau de BPC, déjà, ils sont au village, il y a la terre, ils doivent pouvoir cultiver. Donc voilà, c'est une très bonne chose. D'accord. Et qu'on adapte vraiment.
Merci Elom. Oui, Germain. Et allez-y.
Oui, ce que j'allais dire, c'est l'éducation, c'est le socle là, sur lequel on construit une nation. Et aujourd'hui, il faut pouvoir préparer notre jeunesse à affronter le nouveau défi, qui sont d'abord ceux, on ne va pas, je vais pas revenir sur l'environnement, mais ceux de l'emploi d'abord. Vous savez que la bombe à retardement dans la plupart de nos pays, c'est cette grande frange des jeunes qui sont sans emploi. Et c'est au moment de l'éducation, au moment de la formation professionnelle, c'est dans l'enseignement supérieur qu'on prépare un peu les citoyens de demain. Et donc, je crois que cette idée de faire une sorte de bilan sur ce qui est fait, on en parle depuis des années, mais véritablement, on avance légèrement au niveau des réformes. Peut-être qu'il faut les faire en profondeur. D'accord. Cette enquête-là pourrait apporter des pistes de solutions.
D'accord, merci. Oui, Samir, 30 secondes.
Mais Pascal, le dimanche 5 octobre 2025, cela fera 60 jours que la Chambre administrative de la Cour suprême a procédé à la proclamation des résultats définitifs de l'élection municipale du 17 juillet 2025.
Tout à fait.
Le délai légal qui est prévu par la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales pour organiser les premières réunions pour la mise en place donc, des bureaux exécutifs des conseils municipaux, c'est-à-dire l'élection du maire et les ajouts au maire. À trois reprises, le ministre chargé de la décentralisation a reporté ces réunions-là. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense que le ministre doit se ressaisir. On ne doit pas violer une loi dans le cadre de la décentralisation après six belles années d'expérience. Ça veut dire que nous avons les capacités nécessaires pour ne pas créer encore des débats qui n'ont pas lieu d'être véritablement. Et les partis politiques, les citoyens ou la Chambre administrative de la Cour suprême doit rappeler à l'ordre le ministre de tutelle pour que les préfets, dans les brefs délais, convoquent donc les conseils municipaux pour mettre en place
ces bureaux. Merci beaucoup, Samir. Oui, docteur, un mot de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission.
Voilà, juste un mot de remerciement et également vraiment disons, lancer le message sur l'importance de l'éducation des jeunes à tous les niveaux.
D'accord.
De la primaire jusqu'à l'université.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes docteur Saliou Gaï Ndoye et vous êtes spécialiste en gouvernance internationale de l'environnement. Merci d'être passé dans cette émission. Je souhaiterais même d'ailleurs que de temps en temps, nous allons vous inviter pour ces précisions, surtout sur l'environnement. Et là, Madame Meda, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes conseiller régional et aussi analyste. Firmin Takouagbo, merci d'être passé dans cette émission. Journaliste et chroniqueur politique, merci d'être passé. Merci à Sami Oro-Sama d'être passé dans cette émission, analyste et aussi défenseur des droits humains. Merci d'être passé. Germain Pouli, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.